Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale horreur. On va débuter par deux films de Joe D'Amato. Alors il y a Anthropophagus, un film de 1980 là, qui vient de sortir chez Popcorn Vidéo. Et puis sa suite, hein, horrible, un film de 1980 qui lui est sorti chez ESC. On va ensuite filer chez Rimini Édition pour deux films avec des bêtes méchantes. Je veux bien sûr parler de Tentacule d'Ovidio G. Assontis et de Les Rats Attaquent de Robert Claus. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Sandrine Hiver et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Causer horreur. Je suis accompagné de Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne. Alors, c'est une émission avec plein de monstres aujourd'hui. Hein. Donc, il y a la Bête Noire de Compiègne, elle est là. Le jour, c'est un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. La nuit, c'est donc la Bête Noire de Compiègne qui terrorise, hein, cette sous-préfecture isarienne. Bon, Damien, c'est aussi l'animateur de Projection Perdue avec l'ami Louis que nous saluons, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Cette entité est-elle consciente? Sommeille-t-elle en lui? Eh oui, est-ce que le loup-garou qu'il y a à l'intérieur de Thomas Roland va sortir durant la prise d'antenne aujourd'hui? On ne sait pas. Quand ça arrive, c'est assez effrayant. Il faudra, alors que l'on quitte le studio, je ne sais pas ce qu'il restera des studios de Radiographite. On a tous très peur de lui. Il s'appelle Thomas Roland. Les nuits de pleine lune, il devient le loup-garou Picard. Mais il lui arrive aussi d'écrire des écrits pour la revue Prime Cut. Hein. Oui, parce qu'on écrit des écrits dans notre équipe. C'est incroyable ce qu'on fait. Revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas Roland.
Bonjour Jérôme Potier, bonjour Damien Demey et bonjour à toutes.
Alors on va aller vers l'horreur, l'horrifique, avec deux films qui ont gagné leur statut de film culte, hein, surtout à l'époque de la VHS. Hein, et je veux bien sûr parler de deux films de Joe D'Amato, que sont Anthropophagus, là, qui vient de sortir chez un petit éditeur qui se lance, la Popcorn Vidéo, qu'on a décidé de soutenir. Et puis, Horrible, Horrible, qui lui est disponible chez ESC dans une fort belle édition. Deux films vraiment, vraiment particuliers. Moi, je me rappelle très bien que Anthropophagus m'avait grandement inspiré parce que effectivement les gars là on est quand même
dans du high level, hein. On peut dire que Joe D'Amato, qui a été un très bon directeur de la photo, hein, on peut le voir à l'œuf par exemple sur le film de Massimo D'Alamano, mais qu'avez-vous fait à Solange, mais là, D'Amato s'attaque carrément à la sacro-sainte, à ce qui fait le sel, de, comment dire, le ciment même de la société italienne, la religion catholique. Voilà. Et oui, je sais les gars, j'ai pas vu le même film que vous. Alors, l'homme est-il bon ? Tout dépend de la sauce, écrivait Mark Twain. Et oui, Mark Twain, c'est lui qui a écrit ça. Et Anthropophagus, avec son gigantesque bouffeur de tripes incarné par George Eastman, de son vrai nom Luigi Montefiori, préfère la viande crue sans accompagnement. Ça, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, c'est Luigi Montefiori qui a lui-même écrit le film. Alors, il a aussi écrit Keoma. Alors, il a été plus ou moins inspiré, du coup, durant sa carrière. Et il joue lui-même, là, cette sorte de cannibale, alors, qui mange ses propres entrailles. Alors, c'est un secret pour personne, vu que c'est l'affiche du film. Hein, donc, voilà. Donc, alors, Joe D'Amato, alias Aristide Massacesi, met en image donc un scénario de Big George, hein, Luigi Montefiori, lui, on peut dire par contre que lui, il a bien boulotté le script de La Tour du Diable, hein, de Jim O'Connolly, tourné en 72, puisqu'Anthropophagus, c'est carrément un repompage, hein, de ce film, qui est rarement cité d'ailleurs quand on parle d'Anthropophagus, mais le film est pompé clairement sur le film de Jim O'Connolly, qui est un réalisateur sympathique d'ailleurs. Hein. Bon, tout cela, normalement quand même, vous êtes censé le savoir. Par contre, ce dont la critique ne coche jamais, et oui, c'est son propos. Que peut bien nous raconter un long métrage dont le héros finit par se manger lui-même ? Écoutez Culture Bruit. Thank you. Le cinéma se trouve comparable à ces vastes langages complexes et pour ainsi dire profondément socioculturels que sont les autres arts plus anciens. Les mythes, les rituels sociaux, les croyances, les représentations collectives, les contes, les comportements symboliques, les idéologies, écrivait Christian Metz dans son ouvrage « Langage et cinéma ». Et oui, on a de la ref hein, chez nous. Aucune chance que ces quelques mots aient été écrits pour Joe D'Amato, qui ne débutera sa carrière de réalisateur que 2 ans plus tard, après l'apparition de cet ouvrage, par la mort a souri à l'assassin. Pourtant, s'il existe bien un cinéaste bis fasciné par les rituels, c'est lui. C'est D'Amato. Dans Emmanuel et les derniers cannibales, tout part d'un signe tribal. Dans Et mourir de plaisir, Blue Holocaust et Les plaisirs d'Hélène, il est question de magie vaudou. Donc, que D'Amato choisisse de situer Anthropophagus en Grèce, berceau d'une mythologie très friande de cannibalisme, ce n'est pas un hasard. Pour ne citer que quelques exemples, Arcas est servi en daube à son propre père Zeus, idem pour Plisthène qui se retrouve dans la marmite de son papa Thieste. Cronos bouffe sa progéniture de peur qu'elle lui pique son trône. Camblès dévore sa propre femme avant de se suicider. Ils adorent se bouffer entre eux en fait chez les Grecs, c'est incroyable. Et que de points communs entre Cronos et l'anthropophage campé par Georgis Mann. Car ce dernier, s'il est devenu une terrible créature, oui parce qu'il terrorise en fait un groupe de touristes qui est venu s'égarer sur son île grecque, était auparavant le seigneur de l'archipel grec. Où se déroule Anthropophagus. Sa vie bascule le jour où sa femme et son enfant, son bateau, coulent. Il doit alors tenter de survivre sur un canot de sauvetage. Au bout de plusieurs jours, son fils affamé rend l'âme. Isman propose alors à sa douce de se sustenter du loupio. Mais la maman s'y oppose.
Ah bah.
Étonnant quand même. Alors il la poignarde. Alors, évidemment, involontairement, mais il la poignarde quand même. Ici naît sa malédiction, puisque le cannibale va se goinfrer de sa famille, avant de regagner l'îlot et de basculer dans une folie boulimique hallucinante. C'est bien simple. Il bouffe toute la populace locale. C'est après ce festin qu'une bande de touristes benés et friqués choisit de venir s'égarer sur l'île. Grand mal leur en prendra. Voilà où les choses deviennent intéressantes en effet. Le grand Pier Paolo Pasolini, de son nom, cinéaste également passionné par les rites, avec une meilleure maîtrise de la mise en scène quand même. N'hésitez pas à considérer le cannibalisme comme une extrême vengeance, comme en témoigne son film « Porcherie », dans lequel un clochard mange un soldat avant d'ériger l'anthropophagie en acte révolutionnaire. Bien sûr, le cinéma de Pasolini est loin d'être comparable à celui de D'Amato, mais les deux ont au moins un point commun, l'attirance pour le sacré. Rien d'étonnant, puisqu'en Italie, la religion catholique est omniprésente. Ce qui est plus surprenant, c'est la destinée que choisit D'Amato pour sa créature. Après avoir littéralement extrait un fœtus du ventre de sa mère pour le grailler, le monstre continue d'errer, uniquement mu par la faim, la paillasse percée. Il finira par becquer ses propres entrailles. Et pour un rital comme D'Amato, cette scène est bien plus qu'une séquence dégueulasse, devenue culte. C'est aussi un beau blasphème, un doigt d'honneur sanglant en direction d'une Italie où le seul cannibalisme pratiqué est celui de la dévotion. Amen, et oui, mange, car ceci est mon corps. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce film, mais moi, il m'a inspiré.
On entend ça, on entend ta verve lyrique pour parler de ce petit film d'horreur. C'est un petit film d'horreur quand même, hein. c'est pas un grand film non plus. Mais je trouve quand même qu'il est quand même efficace. Je trouve qu'il arrive à installer toute une ambiance dans une toute première partie. C'est assez intriguant, ça fait même un petit peu peur. C'est-il abandonné, enfin, où il n'y a plus personne, où il ne rencontre plus personne. Je trouve qu'il y a une petite ambiance, une petite atmosphère bien angoissante, notamment dans les séquences de nuit. Et je trouve qu'il est beaucoup plus maîtrisé que sa pseudo-suite. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit film d'horreur bon, sympathique, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais qui se regarde, quoi.
Sympathique quand même, ne serait-ce que pour revoir ces énormes écouteurs qu'on dirait le type a un ananas sur chaque oreille, c'est quand même assez impressionnant hein, dès le début du film. Et parce que, après, on va parler de tentacules, mais ça démarre quasiment comme les dents de la mer, les jeunes, hein, quand même, hein, ça rigole pas. Hein. Et puis, moi, je pense que l'île isolée, le père D'Amato, il avait vu les révoltés de l'an 2000, l'année d'avant, hein, enfin, quelques années auparavant, puisque c'est début des années 70, avec cette île abandonnée qui est particulièrement marquante. C'est vraiment, en tout cas, ce diptyque, c'est vraiment un diptyque culte pour les amateurs de VHS. Alors, le revoir aujourd'hui, évidemment, trahit son côté fauché.
Tu fais bien de parler du côté fauché, parce que c'est quelque chose qui saute aux yeux assez vite. On n'a pas vraiment le temps de rentrer dans le film, qu'on remarque déjà qu'il n'a pas beaucoup d'argent. L'autre point que tu as bien fait d'évoquer, c'est ce casque énorme qu'on voit sur la tête d'une des premières victimes au tout début, parce qu'elle montre que la musique sera infecte. Et pourtant, le film essaye fort. On le voit aussi au début du film, notamment lorsqu'on a un plan où les touristes viennent pour être cherchés en camionnette et que juste au-dessus, on a justement une partie du panthéon grec. Donc ça fait peut-être le lien avec Chronos, mais ça m'étonnerait parce qu'ils sont pas tout à fait liés. Mais ça, on s'en fout. Le plan est beau et on voit qu'il essaye de tenter des choses. Il l'essaye à plusieurs moments et en fait, ça permet que le film est regardable. On arrive à le suivre. Notamment, il y a une scène que j'aime beaucoup qui est l'une des héroïnes qui se retrouve pendue, enfin, pas autour du cou, mais pendue à l'intérieur d'un puits, qui vous donne des plans assez cool. On voit la tension qui peut sortir à n'importe quel moment de l'eau. Il fait des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que toute l'action se passe sur l'île, mais on a quand même le trajet en bateau juste avant qui permet de développer un peu les différents personnages qu'on va avoir, notamment la jeune étudiante.
Qui permet aussi que le film fasse 1h30, parce que ça meuble un peu par moment même.
Ça meuble, mais ça permet de présenter. Donc c'est du meublage. On aurait pu avoir des meubles de campagne juste efficaces. Ils décident de nous rajouter des dorures, on fait avec.
Vous écoutez Culture Prohibée.
C'est un film donc qui, une fois qu'il a posé ses personnages, arrive sur l'île et c'est le moment où on a une ambiance que je trouve qui paye fortement. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une ambiance mystérieuse où on voit les maisons, on se balade dans cette ville, on voit absolument rien. Ça crée une ambiance, comme j'ai dit, mystérieuse, un peu vaporeuse, assez particulière, en tout cas étrange, qui me rappelle... Oula, vous allez... ça va péter un câble, mais ça me fait penser un peu de Dagon de Lovecraft, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une ville qui est inquiétante, là où Dagon est habité par des personnes. Ici, on a l'inverse d'une île qui est totalement vide, parce qu'ils se sont fait, on ne sait pas encore, mais on sent qu'il y a une présence qui est dangereuse. C'est un film qui, en dépit de tous ses défauts, n'est jamais ennuyeux, et trouve toujours une bonne idée pour nous maintenir, notamment l'origine story de la menace. Bon, elle arrive un peu tardivement, je trouve qu'elle est précipitée, mais je la trouve originale et le plan final que tu as évoqué, Jérôme, qui est tout aussi stupide qu'il est sympa et éventuellement fort en symbolique. Parce qu'après tout, si le jeu est un autre, est-ce que le cannibalisme, c'est pas déjà un auto-anthropophage ?
Mange ceci est mon corps, hein, voilà, mais moi je trouve que, effectivement, évidemment que. Il faut pas y voir de malice dans ma chronique du film. J'aime vraiment le film. Pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un petit film fauché bis, mais qui est particulièrement bien troussé. Quand on était gamin, c'est un film qui nous a bien marqué quand même. quand le cannibale mange ses tripes, eh bah, écoute, moi je suis désolé, mais ça fait son effet quand même, hein, même si aujourd'hui on voit bien que tout ça... Le numérique tue le plaisir qu'on avait à voir ces films en VHS, où en fait avec le grain un peu sombre, on ne voyait pas toutes les coutures. Enfin, c'est assez chouette. Et puis il y a cette scène, même si évidemment elle évoque la tour du diable, Jim O'Connelly, mais cette scène de, à un moment de cette jeune femme qui sort là, de, couverte de sang d'un tonneau, enfin, ou couverte de vin, hein, tu, comme tu veux, mais qui est une image assez saisissante. Donc le film comprend des images qui sont assez marquantes. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de l'avoir ressorti. Moi, je me rappelle d'une projection à l'Étrange Festival qui avait fait son effet bœuf quand même. Et il y a une suite, alors une suite qui est une suite opportuniste, parce que Thomas l'a dit, c'est une pseudo-suite. Hein, voilà, avec, alors on va retrouver, parce que le personnage de George Eastman, enfin l'acteur George Eastman, Luigi Montefiori, qui l'a en fait... est un personnage dont les cellules se régénèrent mystérieusement. Donc il est évadé d'un hôpital, il est traqué par un ecclésiastique, ça c'est parce que bon bah il y avait eu Halloween, hein, la nuit des masques, hein, et puis donc là on prend Edmond Purdom, hein. Thomas, tu l'as évoqué, horrible, effectivement, c'est une pseudo-suite. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était sorti en 80, ça a été fait en 81, mais c'est sorti en France en 83. C'est-à-dire que le premier film fait un carton, hein, fait un carton en VHS. Le film marche très bien par rapport à ce qu'il a coûté, c'est monumental ce qu'il rapporte. Et comment. Très vite, il y a cette suite, et cette suite, elle va cartonner aussi. Hein. Moi, je me rappelle qu'en particulier pour la scène du four, hein, qui est une scène qui avait marqué les esprits à l'époque de la sortie du film en VHS. Alors là, on retrouve George Eastman, Luigi Montefiori. Il y a d'ailleurs aussi cette belle actrice française, Annie Bell, qui a joué chez Jean Rollin, qui a fait beaucoup de bis, hein, mais qui est une actrice que j'aime bien. Il y a Michele Soavi, d'ailleurs, le très bon réalisateur Michele Soavi, qui fait un petit rôle aussi dans le film, parce que ces films sont des productions Film Mirage. Film Mirage, c'était la boîte de prod de D'Amato. Film Mirage, c'est la boîte de D'Amato. Il faut savoir que ses deux plus grands succès à Film Mirage, c'est justement Anthropophagus et Horrible, hein, qui qui sont des cartons, même si les films, c'est des films qui ne coûtent pas grand-chose et qui rapportent. Il faut savoir que même que d'ailleurs, ce ne sera plus D'Amato, mais beaucoup plus tard, il va faire une sorte de remake suite de ce film Montefiori avec Métamorphosis, quelque chose comme ça, je ne sais plus le titre du film, enfin bon, qui a un sous-produit bis, c'est pareil, mais bon, qui est une sorte de pseudo-remake suite de celui-là, de Horrible. Alors là, George Eastman, c'est un personnage dont les cellules se régénèrent mystérieusement, il est évadé d'un hôpital, il est traqué par un ecclésiastique, bon, parce que très certainement, George Eastman et Joe D'Amato avaient vu quelques années auparavant La Nuit des Masques, hein, de Carpenter, et il sème la terreur dans une petite ville américaine, parce que oui, il est méchant, hein. il est, on ne sait pas pourquoi, mais il est pris d'une fureur comme ça et il commet absolument sans raison des actes horribles, hein. Il tue tout le monde, voilà, et il prend d'assaut la demeure d'une riche famille isolée. Alors, évidemment, on n'est pas là, on n'est pas dans le meilleur de D'Amato, par contre, hein. Le film a à la revoyure aujourd'hui, en plus, il a vraiment pris un petit coup de vieux. Autant le premier a un petit charme, autant celui-là, il a pris un petit coup de vieux. Même si, alors moi, je l'avoue, hein, le truc qui me fait triper avec ce film, c'est que c'est quoi l'idée du film ? C'est de nous montrer des moments, des séquences dégueulasses, en fait. Et donc, le film, c'est que ça. C'est que des séquences dégueulasses. Une fois qu'on a accepté ce parti pris, le film est assez fun, en vérité. Le film est assez fun. Il est fauché, il est mal joué. Tout ce que vous voulez. La photo est pas très réussie. Alors, c'est étonnant parce que D'Amato, malgré tout ce qu'on peut en dire, reste un technicien doué. Hein. Et là, c'est assez étonnant. Après, c'était des films tournés en quelques jours, en deux semaines, voilà, totalement fauchés. Mais là, c'est quand même moins bien. Mais ce qui reste intéressant, en fait, dans le film, pour moi, c'est que le film a une ambiance. Je trouve que c'est un film qui a une ambiance vraiment glauque. Vraiment dégueulasse, en dehors de tous ses défauts, parce que c'est pas du tout un grand film. Je lui préfère le premier, hein, sincèrement, mais je sais pas, le film a un petit charme vénéneux qui continue de prendre sur moi, même si je reconnais que c'est pas du grand cinéma, mais ça m'éclate de revoir ça, voilà.
Autant Anthropophagus, je trouve qu'il arrive à installer une ambiance, à utiliser ses décors de façon intéressante, autant celui-là m'ennuie, en fait. Alors tu dis qu'une fois qu'on a compris que c'était juste pour monter des scènes dégueulasses, le film devient fun, il faut accepter le truc, etc. Mais en fait, non, moi je trouve que le film raconte rien. Effectivement, c'est une ressucée d'Halloween. Et entre deux meurtres, bon, il se passe quand même, il se passe vraiment pas grand-chose entre deux meurtres, parce que il y a quand même du temps qui s'écoule pas mal entre deux meurtres, hein, quand même dans le film. Et le film ne raconte rien. Il met des plans. Alors le curé filmé en profil perdu qui conduit une bagnole qui passe dans la rue. Le film ne raconte rien et finalement, moi je finis par m'en foutre des meurtres. C'est dégueulasse, ok, mais vu que le film ne m'intéresse pas, ne me raconte rien, bah je finis par m'en foutre. Et puis finalement, et puis bon quand même, la famille, les gamins, tout ça, ils sont quand même agaçants, quoi. On a envie qu'ils meurent, quoi, qu'ils meurent sous les coups du monstre, quoi.
Pourquoi faire autant de mal à cette belle Annibelle, mon cher Thomas ? Oui, alors, bon, voilà, horrible, avec vous l'avez compris, ce produit bis, voilà, Barret, c'est une série Z horrifique, en vérité, hein, ultra fauché. Le seul regret que j'ai vis-à-vis de ce film, qui raconte effectivement pas grand-chose, mais on s'en fout, enfin, moi, je m'en fous qu'il me raconte pas grand-chose, j'attendais pas qu'il me raconte grand-chose, en fait, en vérité, mais... ce qui m'embête un peu, c'est qu'un érotomane comme D'Amato, pour meubler, il n'est pas glissé un peu plus d'érotisme, un peu plus de... Parce que c'est étonnant même de sa part, hein, parce qu'il était quand même assez client du genre. On rappelle qu'il a terminé sa carrière uniquement quasiment que par de la pornographie. Puis surtout, il avait réussi, on pense à La Nuit érotique des morts vivants et tout, à créer des vraies ambiances putrides en mélangeant pornographie et horreur. Enfin, c'est un drôle de type, hein, il a fait des trucs assez... Comme j'en parlais tout à l'heure pour parler d'Anthropophagus, là, qui est sorti chez Popcorn, lui, il a fait des choses assez étranges. D'ailleurs, Horrible, en fait, la suite d'Anthropophagus, là, qui vient de sortir chez ESC, c'est quelque part une sorte de film gonzo, mais de l'horreur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des scènes pornographiques, on a des scènes horrifiques. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. On va comparer ça à l'époque des VHS, on va accélérer, puis hop, une scène horrible, on va regarder, ah c'est cool, tac, il se passe pas grand chose, c'est un peu comme on consommait la pornographie du temps des VHS, quoi, voilà. C'est un peu ça, mais moi je trouve que ça a son charme, en tout cas voir les deux films à la suite, donc on rappelle Anthropophagus sorti chez Popcorn, et puis chez ESC, donc horrible, pour les fans de bis italien, un peu crade et étrange, qui ont envie de voir des films de Joe D'Amato, pourquoi pas. On signalera aussi que c'est chez Artus Film qu'il y a des films de D'Amato parmi, je crois qu'il y a Emmanuel et les derniers Cannibales, hein, c'est ça, c'est Artus Film. Avec aussi George Eastman, qui sont des films que je trouve plus intéressants, où il va plus loin quand même, qui se tiennent plus. Enfin, je vous les conseille vivement. De toute façon, le catalogue Artus Film, on vous le conseille aussi à chaque fois. Écoutez Culture Prune. Thomas, il se plaignait qu'il y en avait marre des films qui racontaient rien, tout ça. Alors du coup, Thomas, je vais proposer de regarder Tentacule. Parce que Tentacule, donc disponible chez Rimini Édition, d'Ovidio Giacontis, qui est plus un producteur qu'un réalisateur d'ailleurs, hein, Ovidio Giacontis. Parce que moi, je sais que Thomas, par exemple, il adore John Huston. Voilà, donc là, il y a quand même John Huston qui joue dans le film. Il y a Bo Hopkins, que j'adore aussi. Et il y a Shelley Winters, qui n'est jamais avare d'une prestation où elle en fait 15 tonnes. Et j'adore aussi Shelley Winters. Enfin bref, une grande distribution internationale avec une magnifique musique de Stelvio Cipriani qui pompe son propre travail d'ailleurs, qui s'emmerde pas, hein, voilà. D'ailleurs, le jeu m'en foutisse, mais un peu ce qui caractérise globalement ce film en vérité, enfin, quoi qu'on peut dire les choses, ce film un peu voilà, un peu étrange, hein, d'Ovidio Giacontis, qui jouait d'un certain culte, hein. C'est pas sa première édition, hein, Tentacule, de 1977, et qui est, mon cher Thomas, je crois qu'on peut le dire, une sorte de version des Dents de la Mer, mais avec une sorte de méga-poulpe, quoi, à la place du requin.
Oui, un poulpe intelligent, comme le requin de L'Amour au Large. Et donc, oui, quand je dis que j'aime bien John Huston, je l'aime surtout en tant que réalisateur. Hein. Je tiens à préciser. Et là, ici, ce n'est pas lui qui réalise le film, et ça se sent beaucoup. Alors oui, donc c'est un poulpe géant, qui entre autres bouffe un gamin au début, un ouvrier dans un chantier naval, puis en fait il se passe pas grand chose non plus, hein, dans ce film là. Il y a John Huston qui, je sais plus, les journalistes ou un truc comme ça, quoi. Ah non, mais au bout d'un moment, tu finis par regarder le film d'un œil, tellement c'est passionnant.
John Huston est effectivement journaliste. J'ai oublié de dire qu'il y a Henry Fonda aussi.
Oui.
C'est quand même une distribution de ouf. C'est quand même. Je sais pas comment il a réussi à persuader tous ces gens de jouer dans le film, parce que il a dû leur payer des vacances, parce que c'est pas possible.
Oui, qui joue un entrepreneur véreux, quelque chose comme ça, qui est à la base de ce poulpe qui devient géant et intelligent, qui se met à becter des gens, quoi. Hein. Je crois que le clou du film, c'est quand même la course en bateau. Je crois que là, on a un grand moment de non-mise en scène où le poulpe géant, il attaque les bateaux comme dans Les Dents de la Mer 2. Hein, il attaque une course de bateaux, de jeunes qui font du bateau. Et c'est extrêmement mal découpé et extrêmement mal monté. En fait, on ne voit rien. On voit juste... Je crois qu'il y a toujours le même bateau qui se retourne avec de la musique. Et puis, en fait, on ne voit rien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui est mangé, qui n'est pas mangé. C'est un grand moment de non-mise en scène.
Au moment où il y a eu cette scène, je me suis dit que c'était mon film qui avait un problème. Mais non, c'était pas le cas. Le problème des pieuvres, c'est qu'ils ont pas d'aileron. Donc pour faire la menace, ils font sortir un peu la tête du poulpe qui fend l'eau comme si c'était un crocodile qui allait à 120 km/h. Mais c'est pas le cas. Et moi, le moment... Alors, cette scène, elle est ce qu'elle est. Je suis d'accord avec toi, Jérôme. C'est un peu un moment où... c'est un film où on se dit que personne n'en a un peu rien à foutre. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'acteurs qui sont présents. C'est qu'ils ont signé quelque chose dont ils n'en avaient rien à faire. Pour moi, le moment où j'avais... déjà un peu perdu espoir, mais le fait qu'ils tentent plein de trucs qui sont ratés. Au départ, moi j'avais beaucoup d'espoir. Quand je vois la scène du bébé, on sait ce qui va se passer, le moment arrive, le bébé disparaît, je me dis, c'est pas mal. Plus ça avance, plus je perds espoir. La scène des bateaux, voilà, j'avais totalement perdu espoir. Et derrière, ils arrivent quand même à trouver comme solution de se dire, on va utiliser deux orques pour aller chasser le poulpe géant. Et c'est un film rempli de clichés qui se prend vraiment au sérieux, donc ça en fait un pur nanar. Mais à chaque fois qu'on se dit qu'on est tombé très bas, il y a une idée lumineuse qui arrive et qui transcende le film à sa façon.
Ah, alors, pour comprendre un peu plus hein, quand même ce qui a produit à ce film qui est un ratage, hein, faut dire les choses, hein, il faut lire absolument le livret de 24 pages hein, qui est consacré à la carrière d'Ovidio G et à Sonitis par Marc Poulec qui accompagne cette édition, parce que c'est une édition soignée hein, et la copie est belle. Moi je savais à quoi m'attendre, Damien, je l'avais déjà vu, donc voilà, mais c'est, le revoir a été un réel plaisir. Alors c'est typique en fait de ces... Alors effectivement, ça manque de personnalité derrière la caméra. Là par contre, un petit Joe D'Amato ou un Lamberto Bava, ça aurait donné un petit truc en plus, quoi. Il y aurait eu une petite patte un peu sadique. Parce qu'en plus, il y a matière. Hein. Au début, le gamin, là, avec... Bon, tu sais que le gamin, il va disparaître quand elle laisse son gamin, qu'elle va parler avec sa copine. Non, mais quelle idée, quoi. Je sais pas, t'as un gamin. Il ne viendrait jamais à l'idée de faire ça. Même si t'as pas d'enfant, tu laisses pas un enfant de 2 ans au bord de la mer, comme ça, dans son landau. En te barrant, quoi, comme ça, en allant discuter avec ta copine de l'autre côté de la route. Ah, ça va, t'as été faire ta manucure et compagnie. Bon, bref, c'est vrai que c'est une enfilade de clichés, tout ça.
We'll be right back.
Vous écoutez Culture Prohibée. Un truc que je comprends pas, c'est pourquoi John Huston, alors déjà John Huston, journaliste, c'est lui qui met à jour le scandale et tout quand même, hein, ça, ça rigole pas, mais pourquoi il va chercher Bo Hopkins, qui est dresseur d'orques, qu'est-ce qui se passe dans la tête du mec pour dire, ok, on va niquer le poulpe géant, pour ça il me faut un dresseur d'orques. Pourquoi il va chercher un dresseur d'orques? Mais quel... Il va chercher un chasseur, je sais pas, un pêcheur, un chasseur, je sais pas ce que tu veux, mais un dresseur d'orques. Enfin, mais pourquoi un dresseur d'orques? Ça n'a aucun sens. Et tout le film est un peu comme ça. En fait, ce qui est embêtant avec ce film pourrait être super fun, en fait, pourrait être super drôle et tout ce que là, on en rigole. Mais le film est assez plat parce que ça manque de personnalité derrière la caméra. On sent que c'est un film de producteur qui a voulu à tout prix faire son film parce qu'il avait une distribution de dingue, hein, il faut le dire, c'est une distribution complètement dingue. Et du coup, au final, le film est assez curieux, parce que c'est à la fois nul et c'est pas nul. C'est-à-dire que c'est très étonnant. C'est pas ultra fauché non plus, c'est des bons acteurs, ils sont pas si mauvais que ça, les acteurs dans le film sont pas mal dirigés, ils jouent plutôt bien, mais ils ont rien à jouer, en fait. C'est ça qui est très étrange. C'est vraiment un drôle de film. Moi, je vous le conseille, si vous voulez voir toute l'une de ces étranges coproductions qu'on pouvait faire dans les années 70, quoi. Il y en a eu plein des coproductions comme ça, des films catastrophes, des films... Et pourtant, moi, je suis assez client en plus des Sous dans de la mer. Je trouve qu'il y en a des chouettes. Il y a le Orca de Michael Anderson. Il y a même La mort au large de Castellari, moi, que je trouve très sympa. Hein. C'est un produit bis, décomplexé, que je trouve assez sympa. Voilà. Mais pour moi, Tentacule... qui est sorti là, à peu près en même temps chez Rimini que Les rats attaquent de Robert Claus. Mais Tentacule a quand même une réputation assez calamiteuse qui pour moi est un peu... voilà, elle se justifie. Moins pour moi pour le film de Robert Claus qui est quand même un truc... C'est assez improbable aussi. C'est assez à l'exemple de ce que pouvaient produire les coproductions de l'époque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour que les mecs de la Golden Harvest, quand même... plutôt spécialisé dans... C'est des producteurs hongkongais, plutôt spécialisés dans les films d'arts martiaux, se disent « On va aller chercher le réalisateur d'Opération Dragon, hein, qui est un vrai film culte. Hein. Moi, j'aime bien Robert Claus, hein, Black Belt Jones. J'adore aussi son film post-apocalyptique avec Yul Brynner. Là,
New York ne répond plus.
New York ne répond plus, voilà, qui est un film qui m'a traumatisé depuis que je suis gamin et tout. J'adore ce film. Et un film écolo avant l'heure, en plus. Mais pourquoi ils vont chercher ce réal? Non pas pour faire le type de coproduction typique que faisait la Golden Harvest, c'est-à-dire, ou la Shaw Brothers à l'époque, c'est-à-dire une coproduction où on va souvent amener un peu d'arts martiaux dans un cinéma occidental pour essayer de populariser le film d'arts martiaux. Non, là, c'est pour faire un film de rats géants qui attaquent, qui se passe au Canada. Je ne sais pas ce qui a pu... C'est un peu l'histoire de Tentacule, là. Comment cette coproduction États-Unis-Italie a pu voir le jour, Tentacule, et bien comment les rats attaquent coproduction entre le Canada et Hong Kong, a pu voir le jour. Là, c'est assez étonnant. Et par contre, si les rats attaquent, mon cher Thomas n'a pas un casting de fou comme peut l'avoir Tentacule. Là, par contre, je trouve que le film de Robert Claus se tient mieux. Et pourtant, alors là, c'est pareil, hein, quand on lit « Dents dures et poings serrés », j'adore ce titre, le livret de Marc Toulec, on voit que c'est un film qui est quand même... Bon, la genèse et le tournage, ça n'a pas été très simple. C'est quand même un film dans lequel on prend des teckels pour incarner des rats géants, quand même. C'est quand même assez extraordinaire. Mais ça, bah malgré tout, le film a un côté âpre, une certaine sécheresse. C'est un bon faiseur, Robert Claus. Et moi, on reste dans le truc bis, hein, mais j'ai envie de dire, Thomas, c'est presque miraculeux. En fait, il arrive à s'en sortir malgré un scénario pas terrible. Il y a même des scènes, hein, c'est un peu porte-nawak avec une gamine qui drague son prof, qui va carrément le retrouver dans les douches. Et l'autre, il est à Walpé, puis il lui répond « Ah, tu sais, ma grande, je ne mange pas de ce pain-là, je ne couche pas avec mes élèves. » Enfin, il y a des moments assez surréalistes dans le film. Et puis, malgré tout, je trouve que le film se tient quand même, en fait. Le film se regarde avec beaucoup de plaisir.
Oui, moi je trouve aussi que le film est très efficace. Il y a des trous au scénario, il y a des personnages qui à un moment apparaissent, il y a des jeunes qu'on voit au début, puis qui tout d'un coup ils disparaissent du film, ou ils sont un peu laissés tomber, il y en a un qui est mordu, et puis voilà, il a été mordu par une bestiole, on ne sait pas laquelle, on fait des radios, puis après, on n'en parle plus. Voilà. Il y a des trous comme ça, mais le film est assez efficace. Et surtout, c'est d'après un roman de James Herbert. Hein. James Herbert, c'était un écrivain britannique qui écrivait des romans particulièrement gore. Hein. Quand on lisait James Herbert, il fallait prévoir un saut à côté. Hein. Qui écrivait des romans particulièrement gore. Et je trouve que Robert Claus ne fait pas l'impasse sur le côté plutôt dégueu, gore du roman de James Herbert. Au départ, c'est une trilogie. Hein. Il y a les rats, le repère des rats et l'empire des rats. Bon, Pierre Boulle, c'était les singes, James Herbert, c'était les rats, chacun son truc. Parce qu'il y a quand même des trucs qu'on ne peut plus faire aujourd'hui dans les rats attaques. Notamment, il y a quand même une gamine qui se fait becter, quoi.
Les bébés, ils passent, hein. Ouais. On fait pas d'état d'âme.
Ah ouais, non, mais on voit pas les rats la becter, mais... C'est hors champ, mais on voit quand même une traînée de sang où on devine que les rats ont traîné la gamine dans la cave pour la becter tranquillement. Et il y a aussi des passages qui sont quand même assez gores. Hein. Bon, tu disais que la distribution n'est pas extra, mais il y a quand même Scatman Crothers. Hein, Scatman Crothers qui, encore une fois, conduit un bulldozer et finit mal. Comme quoi, des bulldozers ne réussissent pas à Scatman Crothers. Mais il finit quand même beaucoup plus mal que dans Shining, parce que là, il se fait quand même becter méchamment par des teckels, enfin des rats, pardon.
Ouais, mais là, il n'a pas le Shining, justement. Donc,
Il ne pouvait pas le savoir, il ne pouvait pas le deviner.
Voilà.
Donc oui, c'est une série B. Faut pas s'attendre à un grand film. Bon, il y a un vague discours écolo, mais bon... On s'en fout un peu. Hein, ce qu'on veut voir, c'est un petit film d'horreur bien sympathique, très efficace, et qui remplit son contrat, quoi. On devine aussi que... Bon, quand on voit le film, quand on le revoit, moi je l'ai vu plusieurs fois, hein, on devine qu'il y a eu des... On devine qu'effectivement, il y a des coupes au scénario, notamment à la fin, que je trouve quand même plutôt expédiée.
They have been here since the dawn of time. They were on the battlefield with Alexander the Great. They were on the edge of Moscow with Napoleon. They're on every continent, in every city, and we do little to stop them. They're here now, waiting, watching. They've gone unchecked, unnoticed, and now they're monsters.
What's the matter? My hand! Something bit my hand!
Are you okay?
Let's get the hell out of here.
The bite itself is much larger than anything I'm familiar with. No, if I had to guess, I'd say something in the order of a Great Dane. Except the dogs don't have the jaw pressure to snap through those metacarpals that cleanly.
Would you believe the other day I saw a rat this big?
Are you through?
No, I mean it. He was this big.
Perhaps you could just go and check out the drain for me, please.
It's hard to believe that rats, even sewer rats, would attack a grown man.
As far as I'm concerned, they're just stories.
Overpopulated.
oversized, and hungry. Not just for food, but for...
Paul, your lady friend was absolutely right about the rats.
They've gotten into the subway.
The rat population of the world is estimated to be 108 billion. 24 times the human population. Deadly eyes.
Tu fais bien de rappeler qu'il y a James Herbert derrière, parce que moi je me rappelle qu'effectivement c'est une trilogie, je crois, hein. Il y a trois bouquins. Hein. C'était assez dégueulasse. Et que, parce qu'aujourd'hui, quand on pense écrivain d'horreur, on pense surtout Stephen King, par exemple. Mais James Herbert a eu son heure de gloire. Hein. C'était vraiment... tous les amateurs de littérature horrifique lisaient du James Herbert. Et c'était assez flippant et c'était assez gore. C'était très graphique pour un auteur. En tout cas, c'était traduit comme ça. Et alors, on était peut-être en droit d'attendre plus de cette transcription de ces bouquins. Moi, je pense que Robert Klaus, il a aussi conscience, en fait, des limites de son budget. Oui, effectivement, il n'y a pas d'acteurs connus dans le film, mais par contre, ils sont bien dirigés. Parce que c'est un artisan solide, Robert Klaus. C'est un bon metteur en scène. Hein. D'ailleurs, moi, je tiens Opération Dragon comme le meilleur film avec Bruce Lee. Hein. Enfin, en tout cas, dans les films d'arts martiaux de Bruce Lee connus, moi, je préfère Opération Dragon au film qu'il a fait à Hong Kong. Hein. Je trouve que le film a un côté fun, série B, avec toujours un petit discours politique de gauche chez Robert Klaus, qui est assez rigolo, qu'on retrouve encore, là, d'ailleurs, hein, même si c'est... Faut le dire vite, voilà, mais qu'on retrouve encore. Alors, effectivement, comme tu le dis, Thomas, il y a des trous dans le scénar, il y a tout ça, il y a ce groupe, effectivement, tu vois, qui se fait manger au début. Je l'avais presque zappé quand j'ai écrit ma chronique, qui se fait au début mordre, là. Puis on se doute bien par quoi il s'est fait mordre. Puis c'est vrai qu'ils disparaissent. Après, c'est des copains de la copine qui, elle, poursuit de ses assiduités le professeur, qui va même quand même jusqu'à se mettre à poil dans son lit. Elle l'attend chez lui, quand même. Elle est gonflée. Voilà. Mais lui, résiste. Hein. Lui, il résiste à toute tentation. Hein.
Puis il y a quand même ces jeunes qui sont allés dans la maison faire une fête où il y a la petite fille qui se fait becter. Et donc, la grande sœur de la petite fille se fait aussi becter. Hein. Autant prendre toute la famille. Mais on n'entend plus parler. Je veux dire, les parents, ils rentrent bien un jour quand même dans la maison. Mais on n'entend plus parler d'eux, quoi. Pas d'infos. Par contre, il y a un vieux qui se fait becter dans un parc. Lui, on en parle.
Mais je trouve que la bonne idée du film, en fait, c'est la dernière partie. C'est-à-dire, c'est le métro. Cette idée de métro avec ce suspense où, en fait, il faut sauver l'enfant. Voilà. Et qui est plutôt bien foutu, je trouve. Voilà. Moi, je trouve que le film se tient bien. Que, bien sûr, le film n'est pas sans défaut. Mais que c'est une bonne série B horrifique. Parmi les deux films d'agression amphibienne animale que nous propose Rimini Édition, là, hein, c'est-à-dire Tentacule d'Ovidio G à Sonitis et les Rat Attack de Robert Klaus. Bon, ma préférence va clairement au film de Robert Klaus, hein, qui est un bon petit film d'horreur. Et même si les effets spéciaux sont clairement loupés, le film garde un peu ce petit côté glauque et ce petit côté gore qu'on aime bien, qui fait un peu le charme de ces petites productions. Fin des années 70, début des années 80. Et donc, on vous conseille de vous faire attaquer par ces rats. Voilà. Et puis, après tout, un film où des rats mangent des bébés peut pas être complètement un film inintéressant. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
yes, yes.